Donc, mardi 19 septembre 2023, donc première séance sur la lecture de Schopenhauer. Alors, le monde comme volonté, comme représentation, donc c'est la grande œuvre de Schopenhauer. Et sa première édition date de la fin 1818. Schopenhauer a 31 ans. Et on peut dire que, au fond, sa philosophie, elle est déjà achevée avec la rédaction de cet ouvrage. Tout ce qu'il écrira après, finalement, sera un commentaire ou un approfondissement de ce qu'il a déjà élaboré. Alors, il y aura deux autres éditions du vivant de l'auteur, l'une en 1844, l'autre en 1859, et elles accroîtront considérablement l'ouvrage en lui ajoutant donc les suppléments. Alors, vous trouvez le livre dans sa totalité, dans sa version intégrale, dans la collection Quadrige aux Presses universitaires de France, dans sa première traduction par Burdeau, c'est celle qui est la plus connue. Et vous voyez que le livre est tout de même assez massif, hein, parce que si vous regardez bien, alors il y a quatre parties, quatre livres. Enfin, un livre, ça équivaut à une partie, si vous voulez, donc quatre livres. Si vous lisez la totalité des quatre parties, donc des quatre livres, ça va jusqu'à la page 516. Et puis, ensuite, vous avez les suppléments. Et là, vous allez jusqu'à la page 1419. Donc, c'est dire le volume, hein. Alors, vous avez cette première version, première traduction, donc dans la collection Quadrige aux Presses universitaires de France, et vous avez sinon une traduction plus récente en folio, dans la collection Folio, et en deux tomes. Vous voyez ? Bon, qui je pense est très bonne, peut-être plus fidèle à la langue allemande de Schopenhauer. Enfin, la traduction Burdeau fait référence. Alors, comme on ne peut pas tout lire, j'ai sélectionné donc les deux suppléments dont je vous ai parlé, et pour être en mesure de bien les lire, je pense qu'il faut avoir une compréhension d'ensemble de l'œuvre de Schopenhauer. Et c'est à cette tâche que je consacrerai les premières séances de Philopop. Mais avant de présenter Schopenhauer, avant d'entamer donc la lecture de son œuvre, je voudrais brièvement indiquer les raisons pour lesquelles j'ai choisi cette année Schopenhauer. Ce qui m'y a déterminé culturellement, si je peux dire, ce sont trois autres philosophes. Le premier, c'est un philosophe, quand il traite de la question de la culture. Le premier, c'est Freud, le fondateur de la psychanalyse, dont nous avons, il y a quelques années, lu les œuvres qu'il a consacrées justement au problème de la culture. Bon. Et fait assez rare pour être noté, Freud reconnaît sa dette à l'égard de Schopenhauer. Il cite Schopenhauer. En général, il ne le fait pas beaucoup, hein, ça. Et effectivement, on verra que Schopenhauer élabore, avant Freud, une théorie de l'inconscient. Une théorie même du refoulement. Deuxième philosophe, Bergson. Plus tardif, cette fois-ci, bien sûr. On va remarquer à peu près la même période que Freud. Donc nous avons lu la saison dernière « L'évolution créatrice », publiée en 1907. Et on va voir qu'il y a une certaine parenté entre ces deux philosophes. Ce que dit Schopenhauer de la volonté, hein, le monde comme volonté, s'apparente à ce que Bergson dit de l'élan vital. Alors, ici, tout de suite, une remarque. Le terme de volonté, on verra, hein, bien sûr, on reverra, le terme de volonté n'a pas pour Schopenhauer, le même sens que nous entendons ordinairement par lui. Il ne désigne pas la faculté consciente de délibérer, décider, qui est en chaque homme. Non, la notion de volonté a une extension beaucoup plus large et elle désigne, si vous voulez, un dynamisme vital qui est présent en toute chose dans l'univers. C'est un dynamisme vital et cosmique, en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'on peut établir une certaine parenté entre ce que dit Schopenhauer de la volonté, on devrait dire le vouloir pour éviter les confusions, et puis l'élan vital de Bergson. Et puis aussi, ce qui est assez notable, c'est que la conception que Bergson et Schopenhauer ont de l'intelligence est assez voisine. Et puis aussi, ce qu'ils disent de la perception. Et c'est au point que même pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands vont accuser Bergson d'avoir plagié, d'avoir copié ce que Schopenhauer avait dit. Vous voyez, bon, il y a une querelle entre Français et Allemands à propos de Schopenhauer et de Bergson. Troisième philosophe, très célèbre, c'est Nietzsche, dont nous avons lu il y a quelques années La généalogie de la morale. C'est une œuvre écrite en 1887. Alors, Nietzsche raconte qu'il doit son éveil, sa vocation philosophique, à la lecture du monde comme volonté et comme représentation. Il lui consacre un éloge dans un texte qui s'appelle « La troisième considération inactuelle », qui a pour titre « Schopenhauer éducateur ». Je lis juste un petit extrait pour que vous ayez une idée. Voilà ce qu'écrit Nietzsche. « Je suis un de ces lecteurs de Schopenhauer qui, après avoir lu la première page de son œuvre, savent avec certitude qu'ils liront jusqu'à la dernière et qu'ils écouteront chaque parole sortie de sa bouche. Ma confiance lui a été acquise dès l'abord et après 9 ans écoulés, elle est encore la même. » Pour tout dire en un mot, et avec un sentiment peut-être outrecuidant, je le compris comme s'il avait écrit pour moi. Fin de citation. Alors, et l'admiration est considérable. Alors, bien sûr, cette admiration qu'éprouve Nietzsche pour l'œuvre de Schopenhauer laissera assez vite la place à une critique assez sévère. Mais on peut ici le dire, c'est tout de même à Schopenhauer que Nietzsche doit l'inspiration de sa méthode généalogique. Alors, qu'est-ce que ça signifie, très rapidement? Qu'est-ce que fait Schopenhauer? Il subordonne l'intelligence, c'est-à-dire le monde comme représentation, il subordonne l'intelligence à la volonté, au sens où je vous ai indiqué le terme. Donc il subordonne l'intelligence à la volonté et en subordonnant ainsi l'intelligence à la volonté, il est le premier philosophe à montrer comment un discours philosophique qui se présente comme un discours rationnel est motivé en fait par une volonté secrète, par une force secrète qui parvient à réaliser ses desseins à travers lui. À travers ce discours. Bon, évidemment, ça ne vous parle pas forcément, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, ces remarques permettent de contextualiser l'œuvre de Schopenhauer. Mais je tiens à dire, en m'adressant surtout aux nouveaux venus, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu les philosophes que j'ai cités pour entrer dans la lecture de Schopenhauer. Rassurez-vous. On fera d'ailleurs ici comme si on ne savait rien. On met les compteurs à zéro. Bon, mais ça, c'est donc la première raison pour laquelle j'ai choisi Schopenhauer, pour des raisons, si vous voulez, culturelles, en quelque sorte. Il y en a une deuxième. Ici, plutôt, je répondrai à une question qui m'a été posée par un certain nombre d'adhérents, qui ont été choqués par la lecture d'un certain nombre de textes de Schopenhauer, notamment l'essai sur les femmes. Et ils se sont étonnés, ils se sont demandé, mais pourquoi choisissez-vous Schopenhauer? C'est un auteur épouvantable. Pourquoi lire en effet l'œuvre de Schopenhauer, qui montre tant d'aspects détestables de sa personne, si vous voulez. Il n'a rien de sympathique. Et d'ailleurs, il n'a jamais cherché à se rendre sympathique. Alors, si vous lisez effectivement l'essai sur les femmes, vous tombez par terre. C'est un monument de misogynie et de préjugés sexistes. C'est vraiment très clair. C'est même, on pourrait presque dire, c'est du Gourafi, si vous voulez. Alors, et en même temps, bon, il l'écrit. Et c'est vrai que dans son œuvre, parfois, il y a des passages où il y a ces choses-là. Bon. Alors, est-ce qu'on doit s'arrêter à ça? Je dirais non, parce que sinon, je ne choisirais pas Schopenhauer. Je pense que c'est tout de même un grand philosophe. En tout cas, il est apprécié comme tel, par beaucoup. Et même si, effectivement, il nous arrivera de noter dans son œuvre un certain nombre de passages qui posent problème, bon, et je crois que son œuvre mérite d'être lue. Et on ferait une erreur en réduisant la totalité de son œuvre à la psychologie du personnage, même si ça intervient. Alors, on a aussi parfois tendance à expliquer le pessimisme philosophique de Schopenhauer par un trait de son caractère. Alors, si c'était vraiment le cas, franchement, son œuvre n'aurait vraiment pas grand intérêt. Et il nous faudra par conséquent comprendre en quoi consiste ce pessimisme philosophique, si tant est que ce soit la bonne dénomination pour parler de ce philosophe, et on laissera un peu de côté, à ce moment-là, sa biographie, tout de même. Bon, mais de manière générale, je tiens à dire la chose suivante. La lecture d'un philosophe, quel qu'il soit, ne nous contraint aucunement à une adhésion de principe et à une déférence quelconque à son égard. Je tiens à le dire. Donc le seul devoir qui s'impose à nous en tant que lecteur, c'est un devoir d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire qu'il s'agira de porter une véritable attention aux arguments de Schopenhauer. Il faudra essayer d'entrer dans sa démarche. Il faudra éviter de lui adresser des critiques un peu hâtives. Et puis, quand on lit un auteur, on le lit progressivement. Il y a des points qu'on ne comprend pas tout de suite, mais qui s'éclaircissent au fur et à mesure. Et donc, le but des séances de philosophes, c'est de nous permettre de nous approprier progressivement la réflexion de l'auteur qu'on lit. Et c'est de cette façon qu'on peut vraiment apprécier sa pensée, loin des topos qui se contentent de dire « voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il nous fait savoir », etc. Ça, c'est pas une lecture. Bon, mais avant d'entamer la lecture de Schopenhauer, il faudrait tout de même parler de Schopenhauer, de sa vie. Elle a tout de même une certaine importance. On peut dire une chose avec certitude, c'est que la seule chose qui lui importait, qui a importé à ses yeux, c'est son œuvre. C'est son œuvre philosophique, c'est son grand ouvrage, Le monde comme volonté et comme représentation. Et il pensait, en vrai mégalomane qu'il était, il était complètement mégalomane, il pensait que cette œuvre exercerait une grande influence sur la pensée de l'humanité. Ceci dit, il en a une. Mais de là à complètement chambouler la pensée de l'humanité, je crois qu'il s'avançait beaucoup. Alors, il publie Le Monde en 1818, je dirais Le Monde maintenant, ce sera plus rapide. Et comme je le disais, il avait 31 ans. Alors, cette publication ne reçoit aucun écho. Elle est accueillie dans le plus grand silence. Et ce silence va durer 30 ans. 30 ans. Et ce n'est que dans les 10 dernières années de sa vie qu'il devient célèbre, et très célèbre, avec la parution d'un ouvrage mineur dont le titre est « Les Parerga et Paralipomena ». Drôle de titre, ça veut dire « complément et supplément ». C'est un ensemble composite d'essais qui reprennent et qui développent, au fond, ce qu'il a déjà écrit dans le monde, mais sous un angle particulier. Et c'est un ouvrage qu'il considère finalement comme un ouvrage mineur, comme une bagatelle. Alors il est tout étonné de voir que cet ouvrage se permet quelques vulgarisations, cet ouvrage connaît un succès considérable, comme quoi finalement la médiatisation, vous voyez, n'est pas forcément le signe d'une véritable valeur. C'est-à-dire que son œuvre Véritable Monde n'a pas été appréciée, alors que c'est vraiment ça qui est le plus important. Et puis, par contre, ces petits essais qui sont dans les Parerga, lui attirent les foules. Donc, et puis, à partir de ce moment-là, il y avait beaucoup d'écrivains, beaucoup de musiciens, lui vouent une grande admiration et sont marqués par son influence. Alors, je citerai Wagner. Wagner vient le voir. Mahler, ça c'est pour les musiciens, il y en a d'autres. Et puis parmi les écrivains, Tolstoï fait un éloge dithyrambique de Schopenhauer. Tourguenieff, les Russes, les écrivains russes, admirent particulièrement Schopenhauer. Et puis évidemment, les écrivains allemands, des romanciers allemands, comme Thomas Mann. Et puis en France, Flaubert et Guy de Maupassant. Et dans Guy de Maupassant, vous avez aussi des pages qui sont presque du Schopenhauer. Et puis, on pourrait citer aussi Marcel Proust. Et puis, Joseph Conrad. Enfin, c'est pas un Français. Bon, vous voyez, pour n'en citer que quelques-uns. Donc, ils sont extrêmement nombreux à, je dirais, admirer Schopenhauer. Bon, mais reprenons les choses dans l'ordre, si vous voulez. Arthur Schopenhauer naît le 22 février 1788 à Danzig. Danzig, aujourd'hui, qui se trouve en Pologne. Et il meurt le 21 janvier 1860 à Francfort, à presque 72 ans. Alors, sa vie, tout de même, a une certaine importance. Et c'est intéressant. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un petit livre qui me paraît très très bien, parce que ce n'est pas écrit uniquement comme une biographie, il y a aussi un petit commentaire philosophique qui accompagne le récit de sa vie. C'est le livre d'Hugo Battini, Schopenhauer, au CERF. Je trouvais ça pas mal. Alors, le père d'Arthur Schopenhauer, Heinrich Floris Schopenhauer, était un grand commerçant, un grand négociant, d'origine hollandaise par sa mère. C'était un libéral qui, tous les matins, lisait le Times. Et il souhaitait donner à son fils, Arthur, une éducation tournée vers le monde et tournée vers l'apprentissage des langues étrangères. Il avait prénommé son fils Arthur parce qu'il s'agit d'un prénom qui existe dans la plupart des langues européennes. Il ne voulait pas d'un prénom spécialement germanique. Il n'éprouvait aucune sympathie à l'égard de la Prusse et de l'Allemagne en général. Et d'ailleurs, il quitte Danzig en 1793, lorsque cette ville cesse d'être une ville indépendante après l'annexion par Frédéric II de Prusse. La ville est annexée par le grand Frédéric II de Prusse en 1793. Alors à ce moment-là, eh bien, Heinrich Floris décampe et il va s'installer dans un autre grand port, Hambourg. Alors, il y avait un assez grand écart d'âge entre le père d'Arthur et sa mère, qui s'appelait de son nom de jeune fille Johanna Trosiner, et qui va devenir une romancière très célèbre en Allemagne. Elle était plus jeune que son père de 19 ans. Elle semble avoir eu très peu de goûts communs avec son mari, si ce n'est celui des voyages. Alors, conformément à ses principes éducatifs, le père d'Arthur envoie son fils dans la famille d'un négociant havrais, Grégoire de Blésimer. Arthur Schopenhauer est un havrais. C'est la troisième raison pour laquelle je l'ai choisi. Il a 9 ans quand il vient au Havre. Nous sommes en 1797. Il va vivre 2 ans au Havre. Fin du XVIIIe siècle. Il passe donc 2 ans dans la famille de Blésimer et, de son propre aveu, ce furent les années les plus heureuses de son enfance. Vous voyez que... Et il n'y a pas de rue Schopenhauer au Havre. C'est même incroyable. Bon, alors, il se lia d'amitié avec le fils de son hôte, Antime de Blésimer. J'aime beaucoup ce prénom, si vous avez un prénom à donner. Antime, c'est très bien. Qui avait à peu près le même âge que lui. Et Arthur revient du Havre à Hambourg, parfaitement bilingue. Il aime les langues étrangères. Il a le goût, un goût véritable pour les langues étrangères et deviendra polyglotte, Arthur Schopenhauer. Il apprendra par exemple le grec et le latin. Bah, il ne les parle pas, mais enfin il les lit, vous voyez, avec une rapidité assez étonnante. Il parle l'anglais, il parle le français. Alors je ne sais pas s'il parle l'italien, sans doute. Mais vous voyez, il parle beaucoup de langues, outre bien sûr sa langue maternelle. Alors, après le séjour au Havre, il fait part à son père de son désir de suivre des études secondaires, puis universitaires. Il voudrait apprendre le grec et le latin. Il voudrait faire des sciences et de la philosophie. Il voudrait devenir professeur. Alors, le père, évidemment, ne souhaite pas cet avenir pour son fils. Un professeur, ça ne gagne rien. C'est toujours vrai. Ça ne gagne pas grand-chose, ça ne gagne pas beaucoup d'argent. Et il voudrait surtout que son fils prenne le relais, reprenne le négoce. Hein. Alors, le père qui est assez rusé. Hein. Alors vous voyez, c'est assez amusant. Le fils qui dit « Je veux faire des études !» Le père « Non, tu vas faire des voyages !» Enfin, c'est complètement l'inverse de ce qui se passerait aujourd'hui. Hein. Bon, eh bien... Le père propose à Arthur le choix suivant. Soit tu fais les études, tu vas au lycée, bon. Soit tu... je te propose autre chose. Soit tu fais un long voyage de formation à travers l'Europe. Tu vas visiter plein de pays avec tes parents. C'est attirant. Ça attire beaucoup. Le jeune Arthur. Et Arthur va opter, non sans hésitation, pour le voyage. Mais c'est un choix difficile, parce que ce choix implique à terme de s'engager à reprendre le commerce de son père. Enfin bon, dans l'immédiat, c'est le voyage. Alors, le voyage a lieu 2 ans, je crois, entre 1800 et 1805, en 1803, je pense. Et alors, Arthur Schopenhauer parcourt l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, la France, la Suisse, l'Autriche, beaucoup de pays, hein. Et il rédige des notes de voyage sur les pays qu'il traverse. Et il y a 2 épisodes qui l'ont particulièrement marqué, dont il parle assez volontiers. La visite du bagne de Toulon, qui lui inspire un profond sentiment d'horreur et de pitié, a beaucoup le marqué. Dans l'idée qui se fait de la condition humaine, et puis aussi les massacres qui furent commis lorsqu'il se trouvait à Lyon. On était dans cette période, dans ce qu'on appelle la terreur blanche, c'est-à-dire que les royalistes réprimaient dans le sang tous leurs opposants, qu'ils soient révolutionnaires, bonapartistes ou libéraux. Et je fais une petite remarque au passage. Au fond, toute l'enfance de Schopenhauer est contemporaine de la Révolution française. Il naît un an avant la Révolution française. Et quand il est au Havre, c'est la fin. Mais vous voyez, et c'est peut-être aussi le moment où l'activité du port négrier est peut-être la plus intense. Vous voyez, je fais des liens. Et donc, oui, il faut se remettre un peu dans le contexte. Hein. Alors, en 1805, de retour à Hambourg, un événement tragique va complètement bouleverser sa vie. C'est la mort de son père, qui meurt brutalement après avoir glissé d'un toit. Un accident, dit-on. Mais Arthur interprète sa chute comme un suicide. Et son père, effectivement, était assez dépressif. Alors, ici, c'est un peu l'histoire, je ne sais pas si vous avez vu le film, de l'anatomie d'une chute, mais dans une version inversée. Et dans le film, l'enfant vient dire à la barre, c'est assez peu réaliste, mais enfin bon, il vient dire à la barre que en fait, son père était dépressif, quoi, et que sa mère n'y est pour rien, pas elle qui l'a poussé. Bon. Et ça va être déterminant hein, pour l'issue du procès. Ben là, c'est plutôt Arthur qui dirait « C'est ma mère la coupable. C'est ma mère la responsable de sa mort. » Indirectement, elle ne l'a pas poussée. Mais elle s'est comportée de telle sorte que mon père a été acculé au suicide. Et ça, c'est quelque chose qui est flagrant, si vous voulez. Elle l'a poussé au suicide par son indifférence. C'est ce qu'il vit, lui. C'est ce qu'il éprouve. Et il écrira ainsi dans son journal, je le cite, « Madame ma mère donnait des soirées tandis qu'il s'éteignait dans la solitude et s'amusait tandis qu'il se débattait dans d'intolérables souffrances. Voilà l'amour des femmes. » Commencez à comprendre pourquoi il est misogyne et pourquoi il va écrire son fameux essai sur les femmes. Ah, il y a une explication, je dirais, psychologique. Il n'y a pas besoin d'être psychanalyste pour le sentir. Alors, après la mort de son père, et ses relations avec sa mère ne vont cesser de s'envenimer jusqu'à leur rupture finale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette mort brutale entraîne dans l'immédiat deux conséquences. D'une certaine façon, elle permet à Arthur d'abandonner la carrière commerciale à laquelle il s'était engagé et pour laquelle il n'avait aucun goût. Et sa mère, fine mouche, ne l'en dissuade pas. Au contraire, elle l'encourage. Vous voyez ? Ben oui, réaliste à vocation. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas envie de faire du commerce. Vraiment, il n'a aucun goût pour ça. Il a envie de faire des études. Il fera des études. Et aussi, du même coup, elle émancipe donc la mère d'Arthur, Johanna. Elle quitte Hambourg. Elle s'en va à Weimar, où elle va tenir un salon littéraire, où elle recevra beaucoup de grands écrivains, dont Goethe, et où elle écrit aussi des romans qui la rendent très célèbre. Elle était très célèbre à cette époque. Alors, elle ne dissimule rien à son fils des liaisons successives qu'elle accumule. Et elle se vante même, entre les lignes de ses romans, de n'avoir jamais ressenti le moindre attachement pour son mari, qu'elle avait épousé pour garantir sa sécurité financière, suite à un violent dépit amoureux. Donc, elle est même assez assez rude. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré ses scrupules de conscience, Arthur Schopenhauer, donc, entreprend des études secondaires. Enfin, il va pouvoir aller au lycée. Il va d'abord au lycée de Gotha, en 1807, puis de Weimar, de 1807 à 1809, puis il suit des études universitaires en médecine, en sciences, à Göttingen, entre 1809 et 1811. Vous voyez, il a une soif de savoir. Et il s'intéresse beaucoup aux sciences et à la médecine. À Göttingen, il fait la rencontre d'un professeur de philosophie dont l'influence est décisive. Il n'est pas très connu, mais il va beaucoup marquer ici Schopenhauer. Il s'agit de Gottlob Schulze, qui va jouer donc un rôle déterminant dans sa formation philosophique, puisque c'est auprès de lui que Schopenhauer va lire Platon et Kant, qui resteront toujours ses deux grandes références. C'est-à-dire que on peut dire que, oui, ça on va le voir, hein, que Schopenhauer est un héritier de Kant. Il reprend beaucoup de la philosophie de Kant, à sa façon bien sûr, à sa façon. Mais, et puis aussi de Platon. Ce sont les deux références constantes de son œuvre. Alors, connaît les autres philosophes, hein, mais ces deux références de prédilection, ce sont ces deux philosophes. Après Göttingen, il va à l'université de Berlin, où il suit les cours de deux grands philosophes, Fichte, c'est un grand philosophe, hein, allemand, hein, et puis Schleiermacher, mais il n'adhère aucunement à leur enseignement. Il se moque pas mal d'eux. Il est assez effronté, hein, Schopenhauer. Alors, comme je l'ai dit, la mère d'Arthur, Johanna, s'est établie à Weimar après la mort de son mari, avec sa fille Adèle, donc la jeune sœur d'Arthur. Elle y tient un salon littéraire. Elle écrit de nombreux romans qui ont beaucoup de succès. Et elle reçoit des écrivains comme Wieland, Meyer, Schiller, je crois aussi, et puis surtout Goethe. Et celui-ci vient d'épouser Christiane Vulpius, avec laquelle il a longtemps eu une liaison, au scandale de la bonne société qui lui ferme ses portes, parce que ça ne se fait pas. Alors Goethe est très reconnaissant à Johanna Schopenhauer de lui ouvrir son salon, et c'est donc sa mère qu'Arthur fera sa connaissance. Il va faire la connaissance de Goethe. Alors il vient vivre de temps en temps à Weimar, mais ses rapports avec sa mère, évidemment, se dégradent. Il lui reproche de se comporter en veuve joyeuse. C'est le cas, on peut dire. Il lui reproche, je dirais, ses mondanités, sa superficialité. Il lui reproche ses invités, sur lesquels il déverse des sarcasmes. Enfin, il est extrêmement désagréable avec eux. Et à l'inverse, Johanna, qui est assez intelligente, hein, il la dévalorise beaucoup, mais aussi elle ne l'aime pas non plus, hein. Johanna, à l'inverse, reproche à son fils son allure sombre, ses incessantes considérations sur la bêtise humaine qu'il répète régulièrement à ses hôtes, au risque de les faire fuir. Et pour donner une idée de l'ambiance qui règne entre la mère et le fils, ben sachez qu'à un moment donné, Arthur Schopenhauer se barricade au premier étage, il se fait monter ses repas à l'aide d'une poulie, et il correspond avec l'étage du dessous, seulement par écrit, sauf pour taper du pied quand le rire des invités de Johanna se fait trop bruyant. Vous voyez l'ambiance qui règne dans la maison. Alors, de 1811 à 1813, Arthur rédige sa thèse de doctorat qui contient les prémices de son futur grand ouvrage, Le Monde. Et alors, le titre de ce livre il a un côté très, très philosophique, de la quadruple racine du principe de raison suffisante. Et on peut dire que ce livre sera transposé carrément dans la première partie du monde. Hein, on retrouvera l'essentiel de ce que dit ce livre dans la première partie du monde. Alors, ce premier ouvrage ne retient absolument pas l'attention des milieux philosophiques. Et quant à sa mère, quant à Johanna, eh bien, quand elle entend parler de son livre, de la publication de son livre, elle prend le mot « racine » dans son sens dentaire. Et elle déclare dans son salon qu'il s'agit d'un traité de pharmacie. Alors, imaginez la tête d'Arthur. Et Arthur, à ce moment-là, répond à sa mère et lui déclare « On lira encore mes œuvres quand on pourra à peine trouver l'un de tes livres dans un débarras. » Il dit ça à un moment, à une époque où elle est extrêmement célèbre. Ses œuvres, ses romans sont republiés. Alors que personne ne parle de Schopenhauer, vous voyez. Il est tout de même visionnaire. Puisque c'est vrai que maintenant, personne ne lit les romans de Johanna Schopenhauer. Alors, le seul à s'intéresser à son ouvrage, c'est Goethe. C'est Goethe qui y décèle les germes d'un génie philosophique. Et Goethe incite Arthur Schopenhauer à prolonger ses propres travaux sur la théorie des couleurs, qui est une théorie qui s'oppose à Newton, à celle de Newton. Alors évidemment, Schopenhauer, effectivement, va écrire un traité de la vision et des couleurs, dans lequel il critique la théorie de Newton, mais il s'écarte. Il s'écarte aussi de celle de Goethe. Bon, Goethe ne lui en tiendra pas rigueur, mais bientôt ils ne se verront plus parce que Arthur va rompre avec sa mère en 1814, et évidemment cette rupture va l'éloigner de Goethe. Et Schopenhauer ne reverra plus sa mère du tout. Elle mourra en 1838. Alors, de mai 1814 à septembre De mai 1814 à septembre 1818, il s'installe à Dresde. Et c'est là qu'il rédige. Il est très jeune, hein, sa grande œuvre philosophique, donc Le Monde comme volonté, comme représentation. Et quand l'ouvrage paraît à la fin de l'année 1818, je le disais tout à l'heure, Schopenhauer a 30 ans. Mais c'est un échec commercial. Un an et demi après la publication, 100 exemplaires seulement sont vendus. Le reste de l'édition est mis au pilon. Aucun écho, aucun article. Personne n'écrit sur l'œuvre de Schopenhauer. Personne ne s'y intéresse. Très dur, hein ? Très très dur. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre que Schopenhauer ait eu beaucoup de ressentiment. Bon. En 1820, Schopenhauer devient professeur à l'université de Berlin. Alors, il espère y trouver, selon ses mots, je cite, « un public plus mûr et plus cultivé que partout ailleurs. Un public qui pourra enfin comprendre son génie philosophique. » Il est persuadé qu'on va enfin le reconnaître. Et, allez voir, ce qui est quand même assez hallucinant, il choisit de placer ses heures d'enseignement au même moment où le grand philosophe Hegel donne ses propres cours. Hegel, c'était vraiment le monument philosophique de l'époque. Grand philosophe, très très grand philosophe. Eh bien, Schopenhauer, estimant qu'il a un génie absolument incomparable, choisit de mettre ses heures de cours au moment où Hegel donne ses propres heures de cours. Et Hegel est une véritable star. Les étudiants se bousculent par centaines pour assister à ses cours. Et évidemment, pour Schopenhauer, il représente tout ce qu'il déteste. Il représente toute la philosophie universitaire contre laquelle il a une dent, hein. Il n'aime pas les professeurs de philosophie. Il déteste les professeurs de philosophie. Alors, résultat, Schopenhauer n'a que 2 étudiants dans ses cours. Et au bout d'un semestre, il doit abandonner. Alors, il était vraiment assez mégalo, hein, franchement. Alors, je passe sur de nombreux épisodes de sa vie. Hein, il y en a plein. Il y aurait plein d'histoires à raconter. Ces histoires aussi avec certaines femmes, hallucinant. Bon, il quitte Berlin en août 1831 par peur de l'épidémie de choléra qui frappe la ville, et d'ailleurs à laquelle va succomber Hegel. Hegel meurt du choléra en 1831 à Berlin. Et il s'installe à Francfort, où il demeurera jusqu'à sa mort. Alors, à l'abri des soucis matériels, grâce à l'héritage paternel tout de même, hein, qui est assez important, eh bien, il peut s'adonner entièrement à la philosophie, avec l'espoir que ses mérites seront un jour reconnus. Et pendant les 27 dernières années de sa vie, il va mener à Francfort une existence isolée et assez obscure. Obscure jusqu'en 1851, où il va devenir très célèbre. Mais alors, présentons un peu le mode de vie qu'est le sien à Francfort pendant des années. Eh bien, son emploi du temps, c'est le suivant, si vous voulez. Son repas à l'hôtel d'Angleterre, où il lit les journaux, et il n'adresse la parole à personne. Donc, midi, le repas à l'hôtel d'Angleterre. Je ne sais pas s'il existe toujours, là, il est détruit. Puis ensuite, il fait de longues promenades en compagnie de son chien. Et là, il a un véritable culte pour les animaux. Il a un véritable culte pour son caniche. Son caniche qui s'appelle Atma. Ah, c'est quelque chose de très important. Une des critiques qu'il adresse à Spinoza, au philosophe Spinoza, c'est qu'il n'aimait pas les chiens. Quelque chose, vous voyez. Après ses promenades, il consacre des heures. D'abord, il consacre quelques heures à l'art de la flûte. Il aime la musique. Il joue de la flûte. Et puis après, évidemment, il consacre des heures de lecture, des heures à la lecture et au travail. Hein. Là, il travaille beaucoup. Alors, dans son logis de Francfort, il paraît qu'il y a un musée maintenant, hein, à Francfort. Montre son domicile. Dans son logis de Francfort, où nul n'entre jamais, personne n'est invité, excepté ses propres chiens. Eh bien, Schopenhauer vit dans la paranoïa. Il vit dans la peur qu'on le vole, et qu'on vole surtout ses manuscrits. Alors, il planque ça, il a des tas de cachettes, et puis il a des pistolets à portée de main, on ne sait jamais. Et pourtant, pendant les dernières années de sa vie, il n'est jamais inquiété. Hormis l'insurrection de 1848, il y a eu une insurrection à Francfort en 1848, comme d'ailleurs dans de très nombreuses villes d'Europe à cette époque. Hein, une révolution dans tous les pays en Europe en 1848. Et cet événement confirme l'aversion de Schopenhauer pour les manifestations populaires. C'est un ami de l'ordre, Schopenhauer, c'est un réactionnaire. Et c'est avec soulagement qu'il assiste à la répression de la révolte par les soldats autrichiens, auxquels il aurait, selon certains biographes, ouvert exceptionnellement son logis et indiqué de sa fenêtre l'emplacement des insurgés. Ben, c'est pas un homme très sympathique. Bon, ça, c'est ce qu'on dit, hein, c'est pas sûr. Enfin, bon, on peut le soupçonner d'avoir prêté main forte ici aux soldats autrichiens. Alors, au cours de ces années, il publie plusieurs ouvrages qui complètent donc le monde. Il publie un essai sur la volonté dans la nature en 1836, un essai sur le fondement de la morale et il publie enfin les fameux Parerga et Paralipomena, en 1851, et à sa très très grande surprise, cet ouvrage recueille un succès considérable, alors que lui-même le juge mineur. Et d'ailleurs, on peut dire que, d'une certaine façon, c'est toujours vrai, parce que je vois en librairie des tas de petits bouquins du style « L'art d'être heureux »,« L'art d'avoir toujours raison », qui font partie de ces paragas et paralipomena. On ne lit pas Le Monde, on ne lit pas les grandes œuvres, on lit ces petits ouvrages qui amusent le public, mais qui sont finalement pas très 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 importants. Hein. Donc, à partir des années 1851-1852, donc la notoriété de Schopenhauer ne cesse de s'étendre, d'abord en Allemagne, à l'Allemagne, et puis ensuite à toute l'Europe. Et des philosophes français, des écrivains français se déplacent pour aller s'entretenir avec Schopenhauer, qui considère ce succès un peu comme une sorte de comédie. Pour lui, c'est assez dérisoire. Lui qui a vraiment, pendant tant d'années, attendu le succès, le voilà qui arrive à propos d'une œuvre qui n'est pas vraiment de loin la plus importante. Vous voyez, c'est quelque chose de comique, si vous voulez, pour lui. Alors, les entretiens de Schopenhauer sont publiés dans les journaux. Vous avez des journaux français qui publient les entretiens d'Arthur Schopenhauer. Et comme je vous le disais, il devient l'objet d'un culte auprès d'un nombre impressionnant d'artistes, de romanciers. Et comble du scandale, il sera bientôt étudié à l'université. Il sera bientôt étudié à l'université après sa mort. Lui qui, deux jours avant de mourir, écrivait la chose suivante, tenez-vous bien, que dans peu de temps, les vers rongent mon corps. C'est une pensée que je peux supporter. Mais que les professeurs de philosophie rongent ma philosophie, j'en frissonne d'avance. Oui. Alors, ce qui est bien avec Schopenhauer, c'est qu'on s'amuse. Il a tout de même un humour féroce. Et, bon, c'est vrai que il y a des pages qui se lisent vraiment avec plaisir. Hein. Bon, voilà. Alors, bon, maintenant, nous pouvons entamer donc la lecture de Schopenhauer. Et ici, comme je vous l'ai dit, on n'abordera pas tout de suite les deux suppléments que j'ai mis au programme, hein. Je vais tout de même faire un parcours dans le monde comme volonté et comme représentation, tout de même, hein. Ça me paraît important. Et je proposerai de lire d'abord des chapitres qui permettent de montrer son projet. Vous voyez ? Voilà, c'est ça que nous allons faire. Et je m'appuierai sur deux séries de textes, alors, je les indique. D'abord, le chapitre 17 des suppléments, qui va de la page 851 jusqu'à la page 884, donc dans la collection Kadrich, 851 à 884. Alors, je pense que c'est vraiment une très bonne introduction à la lecture du monde comme volonté, comme représentation. Et le titre du chapitre, donc c'est le chapitre 17 des suppléments, c'est « Sur le besoin métaphysique de l'humanité ». C'est surtout ce chapitre que je vais regarder. Alors, on n'épuisera pas la lecture aujourd'hui, hein. Et puis, un autre chapitre, c'est le chapitre 31 des suppléments, qui porte sur le génie. Alors, chacun de ces chapitres correspond dans l'œuvre à une partie. Par exemple, le chapitre 17 dont je vous ai parlé correspond au paragraphe 15 du premier livre. Et puis le chapitre 31 des suppléments, qui parle du génie, correspond au paragraphe 36 qui se trouve dans le deuxième livre, dans la deuxième partie. Bon, donc ça, ce sont les références sur lesquelles je vais m'appuyer. Alors, au point de départ, à la source de la réflexion philosophique, il y a l'étonnement. L'étonnement. Et comme l'explique Schopenhauer, L'étonnement, c'est cette aptitude à appréhender le monde comme une énigme. Cette aptitude à s'interroger sur son existence. Alors apparemment, il n'y a rien là de très original. Schopenhauer reprend ce thème à deux grands philosophes de l'Antiquité, qu'il cite d'ailleurs volontiers, qui sont Platon et Aristote. Tout à l'heure, je ferai référence à un petit extrait d'un dialogue de Platon qui s'appelle le Théétète. Le Théétète du nom d'un mathématicien du temps de Platon. Eh bien, dans le Théétète, effectivement, Platon présente l'étonnement comme le point de départ de la réflexion philosophique. Platon, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis Aristote, dans sa métaphysique, 4e siècle avant Jésus-Christ, fait de même. Donc, apparemment, si vous voulez, il n'y a rien là de très original. Et effectivement, Schopenhauer assume cette filiation. Toutefois, contrairement à ces philosophes pour lesquels l'intellect, or je dis l'intellect parce que c'est la traduction de Burdeau, mais on peut dire l'intelligence. Donc, contrairement à ces philosophes pour lesquels l'intellect est une faculté supérieure dont la destination naturelle est de rechercher la vérité de manière désintéressée, vous voyez, l'intelligence, c'est la faculté suprême pour ces philosophes. Eh bien, contrairement à eux, pour Schopenhauer, l'intelligence, donc l'intellect, est seulement une faculté au service de la vie et de sa conservation. Au fond, c'est une faculté biologique. Et il faut bien d'abord comprendre ce point pour ensuite pouvoir bien suivre le cheminement de Schopenhauer. L'intellect s'enracine pour lui dans la vie biologique, dans ce que Schopenhauer appelle la volonté, le vouloir, Derwille en allemand. Terme qu'il ne faut pas entendre, bien sûr, au sens où nous l'entendons, je vous l'ai déjà dit. Il ne faut pas l'entendre comme une faculté consciente de délibérer, de décider, c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Le vouloir, il faut l'entendre comme ce dynamisme vital, ce dynamisme pulsionnel qui s'exprime par des besoins et des désirs. C'est ça, le vouloir. Au nouveau, une force biologique, en quelque sorte. Une force biologique aveugle, qui pousse, en quelque sorte, l'individu à des besoins, à des désirs, à des intérêts. Donc, le vouloir, je répète, c'est une force pulsionnelle. Et si vous regardez le premier texte que je vous ai photocopié, page 1, en haut, est-ce que je l'ai ? Oui. Je lis le début. La volonté, racine de l'intellect. Vous voyez cette expression ? La volonté, racine de l'intellect. Il faut bien comprendre ce point. C'est-à-dire qu'ici, l'intellect émerge de la volonté. Il émerge au sein de la vie. Lorsque les besoins se multiplient en raison d'une complexité croissante des corps, comme c'est le cas du corps humain, ça c'est ce qu'il explique par ailleurs. Vous voyez, au fond, l'intelligence est une faculté qui émerge à partir du moment où on a affaire à un corps assez complexe, si vous voulez. Un corps assez complexe dont les besoins se multiplient. Donc l'intelligence devient nécessaire. Et elle émerge à ce moment-là, à partir de là. Et comme elle est au départ uniquement un moyen au service de la volonté, eh bien, l'intelligence lui est totalement asservie. Lisons, si vous voulez, le début du texte. Donc, la volonté, racine de l'intellect, s'oppose à toute activité de cet intellect dirigée vers quelques fins différentes des siennes. Hein ? Et en conséquence, comme l'explique plus loin Schopenhauer, alors là j'aurais dû numéroter les lignes, hein, j'ai oublié. Vous verrez plus loin, il dit la chose suivante, l'intellect est incapable de saisir l'essence objective des choses, car la volonté et ses fins le rendent si exclusif qu'il ne voit dans les choses que ce qui s'y rapporte. Bon, je le dis d'une autre façon, si vous voulez, hein, c'est une citation, hein, du texte. C'est-à-dire qu'au départ, donc, l'intellect est entièrement asservi à la volonté, au sens où vous comprenez le terme maintenant. Et comme il est entièrement asservi à des désirs, à des besoins, eh bien, il ne nous fait connaître les choses que dans la mesure où elles intéressent ces désirs, où elles intéressent ces besoins, où elles intéressent la volonté. Que dans la mesure où les choses s'insèrent dans des rapports d'utilité. Vous voyez ? C'est-à-dire que le rapport que l'intellect a aux choses, dans la mesure où il est asservi à la volonté, c'est un rapport finalement pragmatique. Hein, il ne s'intéresse aux choses qu'en tant qu'elles peuvent servir, qu'en tant qu'elles sont utiles. Il ne les voit que sous cet angle. Mais il ne les voit pas en elles-mêmes. Vous voyez ? Il ne les considère pas en elles-mêmes. Dès lors, si vous avez compris ce point, dès lors l'étonnement dont je rappelle qu'il est cette aptitude à s'interroger de manière désintéressée sur l'énigme du monde, eh bien l'étonnement a quelque chose d'étonnant. En effet, il y a quelque chose de paradoxal. En effet, comment l'étonnement est-il possible ? Si l'intellect est exclusivement au service de la volonté, si l'intellect est exclusivement une fonction biologique. Comment expliquer l'étonnement si l'intellect, d'abord, est entièrement asservi donc, au vouloir ? Eh bien, ce n'est possible que si on suppose que l'intellect est capable de se libérer de la volonté, que s'il peut momentanément s'affranchir de sa fonction biologique. Et je lis ici le texte, ligne 3, hein, ligne 3. Aussi, l'intellect n'est-il capable d'une conception purement objective et profonde du monde extérieur qu'une fois détaché pour un moment au moins de sa, pour un moment au moins, de sa racine. Je reprends. Hein, il n'est capable d'une conception purement objective et profonde du monde extérieur qu'une fois détaché pour un moment au moins de sa racine. Et plus loin, vous avez un autre passage qui est assez clair. Alors, c'est à peu près au milieu du texte. Ça commence par le monde. Je ne sais pas si vous avez repéré. Le monde, vous voyez, c'est à peu près au milieu du texte, hein. Le monde ne peut ressortir à nos yeux dans sa couleur et dans sa forme vraie, dans son entière et exacte signification, que si l'intellect dégagé de la volonté plane librement au-dessus des objets, sans le stimulant du vouloir, mais non sans une énergique activité. Donc, une telle libération de l'intellect à l'égard de la volonté paraît à première vue assez improbable. Or, comme va le montrer ici Schopenhauer, elle est possible, mais elle n'est possible que si l'intellect présente un excédent par rapport à l'usage que peut en faire la volonté. Et cet excédent, on va préciser de quoi il s'agit, cet excédent est rare. Et à proprement parler, il est monstrueux au sens où il est contraire à la nature. C'est-à-dire que l'intellect qui se dégage de la volonté, hein, qui s'écarte de la finalité biologique et normalement la sienne, bah, c'est une intelligence finalement contre nature. Au sens propre, elle est monstrueuse. Et c'est bien ce que dit ici Schopenhauer en disant, plus loin, un tel état, si vous regardez bien la suite du texte, un tel état est certainement contraire à l'essence et à la destination de l'intellect. Il est en quelque sorte contraire à la nature, j'ai souligné, et par là, des plus rares. Et il ajoute, je souligne, mais c'est en cela que consiste justement le génie. Chez le génie seul, cet état se produit à un haut degré et d'une façon constante, pendant que chez les autres hommes, il ne se réalise qu'approximativement et par exception. Alors, voilà, très important. Vous voyez, il utilise ici le terme de génie pour désigner cet excédent de l'intelligence qui est assez rare, qui est très exceptionnel et qui finalement, d'une certaine façon, est contre nature. C'est cet excédent d'intelligence qui permet justement à l'intelligence de se libérer de sa fonction biologique et d'atteindre une connaissance objective des choses, abstraction faite de toute relation d'intérêt. Alors ici, on peut être perplexe sur la notion de génie. Hein. C'est vrai qu'il y a une explication physiologique, hein, de prétention physiologique chez Schopenhauer. Il prétend expliquer physiologiquement, au fond, le génie par une sorte d'excès, hein, d'intelligence, hein, qui serait naturel, en quelque sorte. Bon, mais le plus important, ce n'est pas tant ce qu'il dit du génie comme individu que ce qu'il dit de la capacité, finalement, que constitue le génie. C'est-à-dire que la notion de génie désigne moins un personnage exceptionnel qu'un état exceptionnel. Et cet état exceptionnel, c'est cet état qui permet de connaître vraiment le monde, les choses, dans leur signification objective. Et là, vous allez voir que Schopenhauer reprend un écrivain de son temps qui s'appelle Jean-Paul. Alors, c'était un pseudonyme, Jean-Paul. Son vrai nom, c'était Jean-Paul Johann Paul, hein, Friedrich Richter. Mais il se faisait appeler Jean-Paul comme Rousseau se faisait appeler Jean-Jacques, par admiration pour Jean-Jacques Rousseau. C'était ça. Et alors, Jean-Paul écrit la chose suivante, c'est ce que cite ici Schopenhauer, l'essence du génie est la réflexion. L'essence du génie est la réflexion. J'ai souligné cette formule. Alors, ici, regardez bien. Le terme de réflexion, il faut l'entendre au sens littéral. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? On essaie d'expliquer, hein. Ça signifie que le génie réfléchit le monde comme un miroir, réfléchit votre image, hein, réfléchit votre visage, hein, quand vous le regardez. Vous voyez, exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'il parvient à s'abstraire des impératifs de la volonté, eh bien, que le génie peut se faire le clair miroir du monde, qu'il peut le réfléchir. Et par là, le génie, cet homme exceptionnel, qui a une capacité exceptionnelle et rare, eh bien, le génie se démarque de l'homme ordinaire. Schopenhauer dit aussi parfois l'homme normal. Et on va voir que cet homme normal n'a pas le même genre de vie, ou en tout cas, plutôt, le génie n'a pas le même genre de vie que l'homme normal. Il n'attribue pas la même importance, si vous voulez, aux choses. Alors, regardez bien le bas du texte, hein, vous allez voir, à partir plutôt, juste après la formule que j'ai citée, hein, l'essence du génie et la réflexion, je cite, « L'homme normal, en effet, est plongé dans le tourbillon et dans le tumulte de la vie, à laquelle il appartient par sa volonté, Son intellect est tout rempli des choses et des événements de sa vie, quant aux choses mêmes, quant à l'existence même, dans leur signification objective, il ne les remarque pas. Et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un rapport utilitaire aux choses. Vous voyez, il ne les voit pas en elles-mêmes, il ne les voit que par rapport à ses besoins, ses intérêts. Bon. Et à l'opposé, regardez la suite, le génie, regardez la dernière phrase, hein, les deux dernières phrases, enfin les quatre, cinq dernières lignes, puisque je passe. Hein. Pour le génie, au contraire, hein, pour le génie, au contraire, dont l'intellect est détaché de la volonté et par suite de la personne, rien de tout ce qui concerne l'individu ne lui voile le monde et les choses, il les perçoit distinctement, il les voit tels qu'ils sont en eux-mêmes, dans une intuition objective, c'est en ce sens qu'il est réfléchi. C'est-à-dire que le génie, alors le génie c'est qui? Vous allez voir que c'est le philosophe, mais c'est aussi l'artiste. C'est-à-dire que le génie, hein, ça, il peut y avoir deux types de génie pour Schopenhauer, hein, l'artiste ou le philosophe. Le génie, il est capable de percevoir les choses pour elles-mêmes, de manière désintéressée. Il est capable d'une perception désintéressée. Or, notre perception ordinaire, c'est une perception toujours intéressée. Hein, ce que nous percevons la table en fonction de l'usage que nous allons pouvoir en faire. Nous percevons tout ce que nous le percevons de cette façon-là. À travers un réseau, si vous voulez, à travers des rapports d'ustensilité. Le génie, lui, voit les choses en elles-mêmes. Abstraction faite de ces relations. Alors évidemment, vous pourriez me demander, mais qu'est-ce que veut dire le terme d'intuition? Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de répondre. Ben non, on va voir progressivement. Intuition, ça veut dire tout simplement connaissance immédiate. Mais évidemment, ça ne s'éclaircira qu'au fur et à mesure. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, le génie est capable d'une intuition, une intuition objective des choses, il est capable de voir les choses telles qu'elles sont. Vous voyez. Alors, dans le paragraphe 36, qui se trouve dans le deuxième livre du Monde, et auquel correspond ce chapitre-là, le chapitre 31, Schopenhauer a une formule très forte pour montrer l'opposition qui existe entre le génie et l'homme ordinaire. Et je vous l'ai photocopiée. Elle est juste après. Et je la commente. Et je vais vous donner un exemple. Pour les hommes ordinaires, la faculté de connaître est la lanterne qui éclaire le chemin. Pour l'homme de génie, c'est le soleil qui révèle le monde. Vous voyez cette opposition. Donc pour les premiers, pour les hommes ordinaires, l'intellect, il sert seulement à trouver son chemin dans la vie, à s'orienter. Sa fonction est pragmatique. Alors que pour le génie, au fond, l'intellect, c'est le soleil. C'est le soleil qui, en dispensant la lumière, permet de révéler le monde, permet de le connaître. Évidemment, pour ceux qui connaissent, mais ça, vous n'êtes pas censé le savoir, Schopenhauer, ici, fait allusion à la fameuse allégorie de la caverne de Platon. Hein, où le soleil, c'est le summum de la connaissance, c'est ce qui dispense la lumière, c'est-à-dire ce qui dispense la vérité. Bon. Mais, laissons. De cette petite phrase, on peut tirer une conséquence. On comprend ainsi pourquoi l'homme de génie est si peu adapté aux conditions matérielles de son existence, éveille souvent si mal à son propre bien-être, puisque son intellect éclaire le monde, eh bien, il est occupé qu'à éclairer le monde, du même coup, il est incapable de lui faire voir son chemin. Vous voyez ? Et vous trouvez une excellente illustration de cette inadaptation du génie à la vie pratique dans un épisode très très célèbre qui est raconté par Socrate dans le dialogue dont je vous parlais tout à l'heure, dans le Théétète de Platon. Socrate n'a rien écrit, c'est le personnage principal. Platon, c'est celui qui écrit hein, les dialogues. Et alors, c'est très simple. C'est un épisode très célèbre. Socrate raconte comment Thalès, le grand mathématicien, le grand astronome, tomba dans un puits parce qu'il avait les yeux au ciel pour regarder les étoiles. Il ne regardait pas ce qu'il avait sous les pieds. Hein, c'est le philosophe dans les nuages. Hein, qui ne voit pas ce qu'il a sous ses pieds. Eh bien, cet incident provoqua le rire et les moqueries d'une servante de Thrace qui se trouvait là et qui assista à la scène. Alors, cet épisode est très célèbre. Hein, commentaire de Socrate, la même plaisanterie s'applique à tous ceux qui passent leur vie à philosopher. On les traite de rêveurs, de gens qui sont dans les nuages, qui ne sont pas capables de s'occuper de choses pratiques, ça ne savent même pas se faire à manger. Bon, et vous voyez, ils sont complètement dans leurs nuages. Bon, donc c'est le thème du philosophe dans les nuages. Il est déjà chez Platon, hein, il est parfaitement lucide, il connaît très très bien ce qu'on dit des philosophes, c'est très bien ce qu'on en dit. Bon. Eh bien, pour la servante de Thrace, comme pour l'homme ordinaire, au fond, le sérieux, ce qui est important, le sérieux, réside exclusivement dans une vie qui est soucieuse de satisfaire ses besoins et ses intérêts. Voilà ce qui est important dans la vie. Pour le génie, le sérieux est ailleurs. Il se place en dehors de l'individu, en dehors de sa propre conservation, en dehors de son bien-être, dans un but que le commun des hommes ne peut même pas concevoir. Hein, c'est ça que nous dit ici le texte hein, de Schopenhauer, au fond, à la suite de Platon, d'une certaine manière. Eh bien, si je tire les conséquences de ce que nous dit ici Schopenhauer, hein, si je suis Schopenhauer, il est exclu que la philosophie soit l'affaire de tout homme. Faut tirer les conséquences. Et selon lui, en effet, il y aurait une sorte d'aristocratie intellectuelle de la nature. Hein. Seuls quelques hommes exceptionnels seraient capables de connaître les choses en elles-mêmes, puisque l'excédent de l'intellect sur la volonté, qui est à la source de la philosophie, de l'interrogation philosophique, ne se rencontre de manière permanente que chez le génie. Bien lu. L'idée d'une association populaire de philosophie, elle en prend un coup. Hein. Elle en prend un coup. Hein. Il faut fermer boutique, là. Hein. J'ai mal choisi hein, en choisissant Schopenhauer. Hein, est-ce que la situation est désespérée? Est-ce qu'on va fermer la boutique ce soir? Non, heureusement, regardez bien, il y a un petit espoir. Parce que tout de même, si je lis ce que dit Schopenhauer, il admet tout de même qu'un état comme celui du génie, je cite, peut se réaliser chez les autres hommes approximativement et par exception. Donc, une fois de temps en temps le mardi et le jeudi soir, par exception et approximativement, vous vous élevez vers cet état. Donc, on est sauvé. Bon, on ne fermera pas ce soir l'association. Alors maintenant, si on poursuit notre lecture, et là on va regarder le texte qui est à droite, qui est le début du chapitre 17, qui a pour titre « Sur le besoin métaphysique de l'humanité », en lisant ce chapitre, on peut être tenté de penser que Schopenhauer revient sur sa conception aristocratique de la philosophie. On peut être tenté de penser qu'il se contredit d'une certaine façon, puisqu'il parle de besoins métaphysiques de l'humanité. Et au début du chapitre, il présente l'étonnement comme une capacité spécifiquement humaine qui permet de définir l'homme comme un animal métaphysique. Lisons le texte, après on verra. Regardez le début. Excepté l'homme, aucun être ne s'étonne de sa propre existence. C'est pour tous une chose si naturelle qu'il qu'il ne la remarque même pas. Il parle des autres animaux. Bon. Donc l'exception ici, semble-t-il, d'après le texte, c'est pas le génie, c'est l'homme en général. L'homme est un animal exceptionnel, puisque à part lui, les autres animaux ne s'étonnent pas de leur existence. Et plus loin, plus bas, fin du paragraphe, Schopenhauer en déduit, je cite, « De cette réflexion et de cet étonnement naît le besoin métaphysique qui est propre à l'homme seul. » Et vous avez à ce moment-là la définition de l'homme comme animal métaphysique. L'homme est un animal métaphysique. Alors, est-ce que Schopenhauer se contredit ? Est-ce qu'il remet en cause l'opposition qu'il a faite entre le génie et puis l'homme ordinaire ? Et est-ce que lorsqu'il définit l'homme comme un animal métaphysique, il ne considère pas qu'au fond, les hommes sont tous capables, sans exception, d'une interrogation philosophique ? Je pose la question. Moi, je lis progressivement le texte, voyez. Si la première lecture, je suis un peu dans cet embarras. Est-ce qu'il se contredit ? On va voir que non. Il ne remet pas en cause l'opposition entre le génie et l'homme ordinaire, mais il va l'intégrer. Il va l'intégrer dans une échelle des degrés d'étonnement qui varie en fonction du degré d'intelligence. Donc, il va reprendre, si vous voulez, cette opposition, mais en l'intégrant dans une échelle de degrés d'étonnement. Et alors, au plus bas degré, si vous lisez bien le passage, vous le relirez calmement chez vous, tranquillement chez vous, en vous élevant à l'état qui vous permet de contempler les choses en elles-mêmes, eh bien, au plus bas degré, vous avez l'absence d'étonnement qui est, au fond, celui de l'homme ordinaire. Et puis, au plus haut degré, vous avez l'étonnement philosophique. Et vous avez une sorte de gradation qui, au fond, signifie qu'il n'y a pas de frontière non plus absolument infranchissable. Vous avez des seuils, si vous voulez, mais vous n'avez pas de frontière absolue, en quelque sorte. Hein ? Alors, prenons l'absence d'étonnement de l'homme ordinaire, d'après ce qu'en dit ici Schopenhauer. Alors, je suis désolé, j'aurais dû numéroter les lignes, ça aurait été plus facile. Je lis ce que dit Schopenhauer. C'est à peu près... Alors, c'est dans la deuxième partie du texte, c'est plus bas. Vous avez... J'ai souligné l'étonnement du savant. Vous allez trois lignes plus bas. Toute chose, vous avez repéré ? Toute chose lui paraît portée, alors il parle ici de l'homme ordinaire, hein. Toute chose lui paraît portée en elle-même l'explication de son comment et de son pourquoi. Cela vient de ce que son intellect est encore resté fidèle à sa destination originelle. Bon, voilà, c'est ça l'homme ordinaire. C'est l'homme qui est complètement asservi à sa volonté, qui ne peut pas se dégager des désirs, des intérêts, des besoins, et il est complètement imperméable à l'interrogation philosophique. La seule interrogation qu'il ait concerne l'usage qu'il peut avoir des choses. À un degré supérieur, vous avez l'étonnement du savant, et là, vous pouvez repérer facilement, parce que là, j'ai souligné l'expression. L'étonnement du savant. Mais comme l'explique ici, et ça va être très intéressant et très important, comme l'explique Schopenhauer, l'étonnement du savant, ce n'est pas le plus haut degré d'étonnement. Il va le distinguer, cet étonnement du savant, de l'étonnement philosophique. Et je crois qu'il faut ici vraiment faire très attention à la différence qu'établit Schopenhauer. Elle est très instructive. Alors, je lis ce que dit Schopenhauer de l'étonnement du savant. C'est à la suite. L'étonnement du savant ne se produit qu'à propos de phénomènes rares et choisis, et tout son problème se réduit à ramener ce phénomène à un autre plus connu. Bon. C'est-à-dire, si je commente, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que le savant s'étonne de phénomènes qui lui paraissent extraordinaires, en ce qu'ils font apparemment exception aux lois que la science a établies, aux lois de la nature. Et lois en fonction desquelles le savant explique la production des phénomènes. C'est-à-dire qu'au fond, le savant s'étonne de phénomènes qui ont l'air de ne pas entrer dans l'explication qu'il fournit habituellement par les lois qu'il a déjà dégagées. Alors, je vais prendre un exemple, si vous voulez, pour que ce soit plus clair. Bon, ce n'est pas un exemple de Schopenhauer, c'est moi qui le donne. L'astronome Le Verrier, je ne sais pas si vous connaissez. Bon. Il était intrigué par l'irrégularité que décrit le mouvement de la planète Uranus. Pourquoi ? Parce que ce mouvement était irrégulier au sens où il s'écartait de la trajectoire que la planète aurait dû avoir au sein du système solaire en fonction de la loi de gravitation universelle. Donc, il y a quelque chose qui ne collait pas, quoi. Le mouvement de la planète n'aurait pas dû être celui qu'on observe. Alors, Le Verrier a fait l'hypothèse suivante. Il a fait l'hypothèse que si le mouvement d'Uranus était irrégulier, c'est parce qu'il était dévié. Dévié par l'influence d'une autre planète, d'une planète inconnue. Et bientôt, son hypothèse se trouva vérifiée, puisqu'on découvrit l'existence de cette planète inconnue par l'observation astronomique. On découvrit l'existence de Neptune. Vous voyez ? Alors, voilà un exemple qui me paraît assez clair, qui illustre très bien ce que dit Schopenhauer de l'étonnement du savant. Ce qui, au départ, est énigmatique pour le savant, c'est un phénomène qui paraît extraordinaire. C'est l'irrégularité du mouvement de la planète Uranus. Mais, par contre, son étonnement ne porte pas sur le système solaire qui obéit à la loi de gravitation universelle. L'étonnement du savant ne porte pas sur le cours ordinaire de la nature. Vous voyez ? La démarche du savant, comme dit ici Schopenhauer, consiste à ramener le phénomène extraordinaire à ce qui est déjà connu, à ce qu'il sait déjà de la loi de gravitation universelle. Vous voyez ? C'est-à-dire que la démarche du savant consiste à intégrer ce qui lui paraît extraordinaire à l'explication, finalement, à l'explication qu'on peut en donner grâce à la loi de gravitation universelle. Hein ? Voilà, c'est comme ça que l'étonnement va être réduit. Eh bien, ici, ce n'est pas du tout l'étonnement philosophique. L'étonnement philosophique procède de manière inverse. Je lis le texte. Regardez, après, esprit philosophique, vous voyez ? Esprit philosophique, c'est plus haut. De même, avoir l'esprit philosophique, c'est-à-dire s'étonner philosophiquement, c'est être capable de s'étonner des événements habituels et des choses de tous les jours, de se poser comme sujet d'étude ce qu'il y a de plus général et de plus ordinaire. Vous avez repéré ce passage ? Comment ? Donc, le premier, le savant, s'intéresse aux phénomènes qui font apparemment exception aux lois de la nature. Le second, donc le philosophe, il s'étonne, à l'inverse, de la nature elle-même, de ce qui est habituel. Il s'étonne du cours naturel des choses, du cours naturel de la nature. Hein, vous voyez, son étonnement ne porte pas sur ce qui est apparemment exceptionnel et qu'on va pouvoir réduire, mais sur justement ce qui est habituel. Pour l'étonnement philosophique, c'est la nature elle-même qui fait énigme. Ce n'est pas simplement un phénomène qui fait exception à son cours ordinaire. Vous voyez ? Donc seul, par conséquent, l'étonnement philosophique s'interroge sur l'énigme du monde. Pour le philosophe, ce qui est étonnant. C'est le monde en lui-même. Hein ? Toutefois, et oh là, je commence à dépasser, vous voyez, ben, c'est un peu un problème. Hein, vous voyez, je commence à ne pas suivre. Hein. Bon, vous me permettez d'aller un petit peu jusqu'au bout, j'en ai pour peu de temps. Toutefois, il n'est pas nécessaire de s'élever à l'étonnement philosophique, il n'est pas nécessaire de s'élever à cet étonnement pour éprouver ce que Schopenhauer appelle le besoin métaphysique. Hein. Cette expression de besoin métaphysique, vous avez noté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce besoin métaphysique ? C'est le besoin éprouvé par chaque homme en ce qu'il est le seul animal qui s'étonne de sa propre existence. Et il s'étonne de sa propre existence, comme l'explique ici ensuite Schopenhauer, il s'étonne de sa propre existence en prenant conscience de sa finitude, en prenant conscience de sa mortalité. Et c'est en ce sens qu'il est un animal métaphysique. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et ça, c'est vrai de tout homme, pas seulement du philosophe. Hein. Ça, c'est universel. Et comme le besoin métaphysique, comme le besoin physique, on parle de besoin, on parle d'un besoin physique, ben on parle de la même manière du besoin métaphysique. Eh bien, comme le besoin physique, il appelle une satisfaction. Mais celle-ci ne le conduit que... cette satisfaction conduit très rarement vers la réflexion philosophique. C'est-à-dire que le besoin métaphysique se contente la plupart du temps de réponses apaisantes, à peu de frais, comme dit Schopenhauer. C'est-à-dire que la plupart des temps, les hommes, évidemment, qui éprouvent ce besoin métaphysique, ils se contentent de réponses, finalement, assez sommaires et assez apaisantes. Alors, je cite ici le texte qui se trouve page 2, en haut, 5-6e ligne, après le début. Et voici ce que dit Schopenhauer. La plupart du temps, le besoin métaphysique, le besoin métaphysique se laisse amuser par des fables ridicules et des contes de mauvais goût. Pour peu qu'on les ait inculqués de bonne heure à l'homme, ce lui sont des explications suffisantes de son existence et des soutiens pour sa moralité. Là, il y a une charge contre les religions. Alors qu'au fond, pas qu'il met toutes les religions dans ce sac-là, mais pour Schopenhauer, effectivement, beaucoup de religions sont des fables ridicules et des contes de mauvais goût. Alors, on satisfait à peu de frais le besoin métaphysique des hommes. On les tranquillise de cette façon, avec ces fables. Bon. Donc, vous voyez bien que le besoin métaphysique ne débouche pas nécessairement sur une interrogation métaphysique. Et si les réponses apportées aux besoins métaphysiques sont souvent très peu exigeantes en matière de vérité, c'est qu'elles dépendent pour une bonne part de ce que Schopenhauer appelle plus bas la capacité métaphysique de ceux qui l'adoptent. Regardez bien la dernière phrase. Cela prouve que le besoin métaphysique ne va pas de pair avec la capacité métaphysique. Vous voyez ? Donc, au fond, beaucoup d'hommes satisfont leurs besoins métaphysiques à peu de frais avec des systèmes finalement très peu exigeants en matière de vérité. Bon. Mais ce qui est vrai, c'est que si on considère la pensée philosophique, elle doit sa naissance aux besoins métaphysiques. Et en ce sens, il n'y a pas de différence entre la philosophie et puis la pensée la plus, je dirais, la religion la plus sommaire. Hein. C'est-à-dire que la pensée philosophique n'aurait aucune raison de s'éveiller sans l'impulsion que lui donne justement la conscience de la mort et de la misère de la vie humaine. Si l'homme n'avait pas conscience de sa finitude et du spectacle de la misère de la vie humaine, eh bien, sa pensée ne s'éveillerait pas. à la réflexion philosophique. Donc, l'intelligence n'aurait en effet aucune raison de s'interroger sur l'énigme de l'existence du monde si la condition de l'homme était essentiellement heureuse, si les hommes étaient parfaitement heureux, si leur vie était immortelle, si leur vie était tout le temps finalement satisfaite, hein, eh bien, les hommes ne se poseraient pas de questions. Vous voyez ? Il n'y aurait pas d'interrogation. Et c'est ce que dit d'ailleurs, vous verrez, ici, Schopenhauer. Je ne vais pas citer le texte pour aller plus vite. Donc, la conscience de la mort joue donc un rôle décisif en ce qu'elle frappe l'existence d'un caractère inintelligible et en ce qu'elle contraint ainsi l'homme à s'interroger sur elle. Et c'est dans cette inintelligibilité primordiale et dans la nécessité d'y répondre que l'homme donc éprouve en lui un besoin métaphysique. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par métaphysique ? Eh bien, ici, Schopenhauer répond à la question. Regardez page 2. Page 2, le deuxième texte. J'ai souligné tout le passage. Par métaphysique, j'entends tout ce qui a la prétention d'être une connaissance dépassant l'expérience, c'est-à-dire les phénomènes donnés, et qui tend à expliquer par quoi la nature est conditionnée dans un sens ou dans l'autre, ou pour parler vulgairement, à montrer ce qu'il y a derrière la nature et qui la rend possible. Alors, n'allons pas trop vite. Au fond, étymologiquement, métaphysique signifie ce qui est au-delà de la physique, ce qui est au-delà de la nature, ce qui est au-delà des phénomènes que vous observez. C'est ça que veut dire métaphysique, ce qui est au-delà. Bon. Et donc la métaphysique, c'est un mode de connaissance, ben, qui prétend s'élever au-delà des phénomènes observés pour appréhender le principe caché, le fondement invisible, la cause ultime qui est à l'origine de la nature et de toute existence. C'est-à-dire qu'au fond, on essaie, hein, la métaphysique, c'est cette connaissance, enfin en tout cas, c'est ce qui prétend être une connaissance qui veut s'élever au-delà de ce qui est visible pour atteindre l'invisible, en quelque sorte, hein, pour saisir la source ultime de toute existence. Bon. Et c'est en s'élevant à cette connaissance que l'on pense ainsi pouvoir donner sens à son existence. Hein, quand on atteint, vous voyez, la connaissance de ce fondement ultime, on croit ainsi pouvoir donner sens à son existence. Alors, toute la question qui va être celle de Schopenhauer, maintenant, et je vais bientôt abandonner ici le texte, on verra la prochaine fois, toute la question, c'est de savoir si le besoin métaphysique peut trouver satisfaction. Est-ce qu'il peut trouver satisfaction ? Et s'il peut trouver satisfaction, peut-il trouver satisfaction sans tomber dans des fables ridicules, bien sûr ? Alors qu'il ne s'agit pas de trouver satisfaction à n'importe quel prix, hein ? Bon, il s'agit de trouver satisfaction en accédant à une connaissance qui permette vraiment d'élucider l'énigme de notre existence. Et je terminerai ici mon propos par la citation suivante qui se trouve au tout début du deuxième paragraphe. Regardez bien. Hein. Voilà le souhait que formule ici Schopenhauer. Et c'est à ce souhait qu'il va chercher à répondre, hein, dans la suite du texte. Car, vous avez trouvé ? Car s'il y a quelque chose de souhaitable au monde, et de si souhaitable que la foule grossière et stupide elle-même, dans ses moments lucides, l'estimerait plus que l'or et l'argent, c'est de voir un rayon de lumière tomber sur l'obscurité de notre existence, c'est de trouver quelques solutions à la mystérieuse énigme de notre vie, dont nous n'apercevons que la misère et la vanité. Je reprends, si vous voulez. Ça se trouve, page 2, colonne de gauche, deuxième texte, en haut, au début. Car s'il y a quelque chose de souhaitable au monde, et de si souhaitable que la foule grossière et stupide elle-même, dans ses moments lucides, l'estimerait plus que l'or et l'argent, c'est de voir un rayon de lumière tomber sur l'obscurité de notre existence, c'est de trouver quelques solutions à la mystérieuse énigme de notre vie, dont nous n'apercevons que la misère et la vanité. Est-ce que le souhait formulé par Schopenhauer sera exaucé? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Alors, vous voyez, là, je n'ai pas du tout tenu, mais j'ai fait un quart d'heure de plus. Désolé. Bon, je préfère aller jusque-là parce qu'après, ça aurait été un peu embêtant. Mais on reprendra tout ça tranquillement. Donc, à vos questions. Alors, les textes que je vous ai distribués, hein, que vous avez là sous les yeux, lisez-les chez vous, parce que la prochaine séance, on les reprendra, et vous voyez, on en embêtera d'autres, mais ce sont des extraits surtout du chapitre 17, ou alors achetez le bouquin carrément, hein, mais c'est beaucoup. Vous voyez, ils vont nous servir, hein. Oui.
Il me semble que quand un savant a vraiment de l'envergure, il ne se réduit pas à ramener ce phénomène à un autre plus connu, mais qu'il peut aller jusqu'à formuler une théorie autre, plus ambitieuse, pour reprendre les...
Oui, on est d'accord.
Là, c'est peut-être un peu réducteur.
Bon, il ne sait... Comment dire ? Non, pas non plus. Non, je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il y a des phénomènes qui sont tels qu'ils contraignent le savant à, en quelque sorte, remettre en cause le cadre d'explication qui était jusqu'à présent le sien. Mais d'une certaine façon, c'est le même problème. C'est-à-dire que soit il parvient à ramener, au fond, ce phénomène étrange à ce qu'il connaît déjà... Soit il va révolutionner en quelque sorte sa théorie, enfin remettre en cause le cadre théorique, le modifier pour pouvoir intégrer le phénomène. Mais c'est toujours par rapport à un réseau de connaissances qu'il appréhende le phénomène qui apparaît extraordinaire. C'est ça que veut montrer surtout Schopenhauer.
Oui, oui. L'exemple de Le Verrier est très parlant.
Oui.
Là, je parlais plutôt de quelqu'un comme Einstein qui...
Oui.
Ouais.
Mais qui se met au-dessus, la théorie d'Einstein ne va pas, entraîner une invalidation de la théorie newtonienne. Elle va l'intégrer. C'est pas les théories. Voilà, elle est révisée, elle n'est pas niée, elle n'est pas supprimée. C'est-à-dire qu'il y a disons, un progrès par intégration de l'ancienne théorie.
Ouais.
Mais alors je suis d'accord, mais pour l'essentiel, l'idée reste la même. C'est que le savant s'interroge sur un phénomène qui pose problème, qui lui paraît étonnant, et il cherche à le ramener à ce qu'il connaît déjà. Alors évidemment, si le cadre de ce qu'il connaît déjà n'est plus adéquat, il va le remanier. Mais au fond, on est dans la même idée. C'est que l'étonnement est toujours intégré à des rapports, hein. Je veux dire qu'il s'agit toujours pour lui d'expliquer un phénomène par des lois, hein, par d'autres choses. Alors que, le philosophe, lui, s'interroge sur le monde.
La démarche scientifique, elle est plutôt factuelle.
Elle est factuelle. Elle est conceptuelle, la démarche scientifique, hein. Bien sûr, c'est avec des concepts. Bon, c'est vrai que le philosophe, d'une certaine façon, fait du chemin avec le savant, hein. Il ne s'agit pas de les opposer. Mais leur étonnement n'est pas de même nature. C'est vrai que, au fond, d'une certaine façon, l'étonnement du philosophe, il porte sur le monde, sur le surgissement du monde. Voilà, c'est le monde dans sa totalité qui pose problème. C'est pas un secteur, c'est pas un événement, c'est pas un... Voilà. Et d'une certaine façon, le savant, quand il s'interroge sur un phénomène qui lui paraît extraordinaire, il ne rompt pas totalement avec l'attitude de l'homme ordinaire. L'homme ordinaire, quand il saisit une chose, c'est toujours dans un réseau de relations avec d'autres choses. Eh bien, le savant, lui aussi, mais d'une autre manière, bien sûr. Hein, d'une manière...
Il s'appuie sur des faits vérifiés.
Et puis, voilà, il s'appuie sur... Il va mettre en réseau le fait avec d'autres faits. Comme nous, notre perception ordinaire, elle met en réseau ce que nous voyons avec d'autres choses. Voilà. Et... Oui, alors
oui, je pense qu'on pourrait peut-être clarifier les choses... les complexités, complexifier, en disant qu'on abandonnait un peu la notion de savant et de philosophe, en considérant qu'il y a deux façons de voir, deux façons d'étonnement, de style d'étonnement, et qui peuvent très bien être vues d'un moment à un autre. On peut très bien avoir, un savant peut avoir une démarche philosophique à un moment, voilà, et donc sans automatiquement... deux démarches qui peuvent être...
C'est pas ce que fait Schopenhauer.
Non,
c'est-à-dire que...
Par rapport à la discussion.
Tout à fait, ah oui, par rapport à la discussion, mais il tient vraiment à cette distinction entre le savant et le philosophe, parce qu'il va y revenir. Et c'est vrai que... il va montrer que... Alors, ça va choquer, mais c'est pas anti-scientifique ce qu'il dit. Que le savant ne reste qu'à la surface des choses. Des phénomènes. Il s'intéresse au rapport entre les phénomènes. Voilà. Et sa démarche est explicative. Il cherche une explication au phénomène. Donc il reste... Alors là, évidemment, je ne peux pas encore entrer dans cette explication, mais il ne s'intéresse pas, au fond, à ce qui est à la source des phénomènes, au fond des choses. Alors là, évidemment, non, là, je ne peux pas entrer dans ce commentaire, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va voir après. Mais il y a une différence de fond, si vous voulez. Alors, ce n'est pas une disqualification de la science du tout, hein. Bien sûr. Mais l'approche est radicalement différente. Oui ?
Est-ce que Schopenhauer voit le raisonnement comme quelque chose purement philosophique ? Parce que lui, il est bien obligé de raisonner. Il raisonne avec des bases. Hein, quand il nous explique des choses, il le fait avec des bases. Faire un raisonnement, en quelque sorte. Comment est-ce qu'il voit le raisonnement qui est en fait intrinsèque ? Est-ce que ça fait partie de sa volonté, de son vouloir ou...
Alors, c'est vrai que c'est une question importante qu'on va arriver à préciser par la suite. C'est-à-dire, en fait, ce qui va montrer Schopenhauer, c'est que la vraie connaissance est intuitive. Donc elle passe pas par le raisonnement. C'est-à-dire qu'il va montrer que la vraie métaphysique, mais pour l'instant, je peux pas l'expliquer. La vraie métaphysique est fondée sur une expérience. Elle n'est pas fondée sur le raisonnement. Les grands philosophes qui ont parlé de métaphysique ont prétendu établir par leur raisonnement la connaissance du fondement suprême de la réalité. C'est par le raisonnement qu'ils prétendent s'élever jusqu'à la source du réel. Hein. C'est comme ça qu'ils prétendent effectivement procéder. Or, et ici Schopenhauer, à la suite de Kant, va montrer que toute connaissance par le raisonnement qui prétend s'élever au-dessus de l'expérience débouche sur de l'illusion. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans la pure abstraction. On n'est pas dans une véritable connaissance. Donc le raisonnement, effectivement, il peut se perdre dans l'abstraction. Et ne pas parvenir, effectivement, à ce qu'il prétend réaliser, c'est-à-dire une véritable connaissance, au fond, du fondement. C'est-à-dire que le raisonnement, il n'en finit pas. Par exemple, on veut le raisonnement, il veut qu'il repose sur le principe de causalité, par exemple. Bon, on remonte du... Pour expliquer un événement, un phénomène, on montre qu'il est l'effet d'une cause. Mais cette cause elle-même, elle est l'effet d'une autre cause. Et ça, on n'en finit jamais. On ne peut jamais s'élever à une cause absolue. Ou alors, si on prétend s'élever à une cause absolue, on est en rupture avec, justement, le principe de causalité. Le principe de causalité, il est, je veux dire, il nous installe dans une relativité permanente. On ne peut pas s'élever à une cause absolue par le raisonnement. Ou alors, on transgresse, justement, ce principe de causalité. Donc, on tombe ce que Kant appelle des apories, dans des antinomies plus exactement, dans des impasses, sans fin. Bon, or, si la métaphysique suit la voie du raisonnement, effectivement, elle débouche sur des spéculations stériles. Et ce que va faire Schopenhauer, et comme ce que fera aussi Bergson à sa façon, c'est qu'il va prétendre, établir une connaissance métaphysique, mais par la voie de l'expérience. Une expérience qui n'est pas expérience que nous avons des choses extérieures, mais une expérience interne. Alors là, je ne peux pas vous en dire plus. Une expérience interne. Alors, je vous laisse sur votre faim. Bon. Mais, vous voyez, il va... Alors, là, ça demande... C'est pour ça qu'il va falloir suivre la suite du texte, montrer... Alors, il va faire une enquête. Il va d'abord, sur les différents systèmes... il va faire une enquête sur les deux manières pour le besoin métaphysique de chercher satisfaction. Il y a deux types de métaphysiques. Il y a les métaphysiques populaires, ce sont les religions, qui ne s'appuient pas sur le raisonnement. Vous voyez ? Et puis, vous avez les philosophies, les systèmes philosophiques, qui traditionnellement s'appuie sur le raisonnement. Vous voyez, il va faire une enquête, il va se demander est-ce que il va faire une critique des religions. Bon, d'une certaine manière, il va les critiquer sous un certain angle et montrer qu'elles sont efficaces sur d'autres. Et puis il va, concernant les doctrines philosophiques qui s'appuient sur le raisonnement, il va montrer, à la suite de Kant, eh bien qu'elles débouchent sur une impasse. Que ce n'est pas cette voie-là qu'il faut suivre. Bon, mais là, je schématise très, très grossièrement. Vous voyez, il va suivre une enquête pour arriver à une réponse à la question qui se pose. Est-ce qu'il y a un rayon de lumière qui nous permette d'éclairer l'existence, de trouver une solution à la mystérieuse énigme de notre monde, de notre vie? Est-ce qu'il y en a une? Alors, il prétend que oui. Alors, ça vous paraît bizarre, mais il prétend que oui. Bon, on va voir en quel sens. Vous voyez ? Alors, je dis tout de suite aussi, Schopenhauer est un athée. Non, parce qu'on pourrait penser que métaphysique, il y a l'idée d'un principe suprême, d'un fondement. Mais il est athée, mais en même temps, c'est un athée chrétien. Vous verrez, c'est très étrange. C'est une pensée, assez curieuse, intéressante. Mais bon, un chrétien dans la conception de la morale, surtout. Vous voyez ? Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de suivre la démarche. Voilà. C'est pas de savoir ce qu'il a dit, mais de suivre la démarche. Si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question? En m'excusant d'avoir débordé, de ne pas m'être tenu à ce que j'avais dit. Oui?
Pourquoi est-ce qu'il dit qu'un homme ordinaire ne peut pas faire preuve d'étonnement? En fait, j'ai l'impression que j'ai un bon épris dans ce que vous avez dit.
Alors, bonne question. Il y a une sorte d'aristocratisme de Schopenhauer. Alors ça, c'est clair, l'homme ordinaire, c'est... Bon, ça, il ne faut pas se le cacher, pas se cacher. Bon, et lui-même fait partie des génies. Vous êtes d'accord, Bon. Alors, ça, on est d'accord. Bon, maintenant, pourquoi l'homme ordinaire est incapable de s'élever à l'étonnement philosophique? Parce que d'une certaine façon, ça n'intéresse pas. Les choses vont de soi. Dans la vie, on ne se pose pas de questions, on vit, tout simplement. Quand est-ce qu'on bouffe? Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? Et je sais pas, enfin des questions pratiques. Le philosophe qui s'interroge sur l'existence, c'est vraiment bon, ça va, deux secondes. Oui, simplement ça. Hein, c'est... Alors, il est travaillé par l'angoisse de la mort, bien sûr. Mais bon, ben, il a tendance à chercher des réponses satisfaisantes, des réponses apaisantes. Et d'une certaine façon, il y a chez Schopenhauer bon, une approche des religions, qui, enfin, on ne va pas développer. On verra ça la prochaine fois. Voilà. Allez, on arrête. Bravo.